Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'écrivain Yann Kefelek chez son éditeur, Kalman Levy.
Lorsque je rencontre quelqu'un comme ça qui me dit ne pas être attiré par la lecture, j'ai tendance à ne pas le prendre tellement au sérieux. Je suis sûr que n'importe lequel d'entre nous, si tant est qu'il prenne au sérieux l'existence, est à la merci évidemment du livre qui changera sa vision des choses.
Yann Kefelek est un personnage hors norme à plus d'un titre. Fils d'un écrivain, Henri Kefelek, il ne se destinait pas forcément à l'écriture. Breton d'adoption, amoureux de la mer devant l'éternel, il s'apprêtait à partir pour un tour du monde lorsqu'en mai 1978, il a croisé la route de la célèbre éditrice Françoise Verny. Cette rencontre qui va changer sa vie, il la raconte dans Naissance d'un Goncourt, un récit passionnant, plein d'énergie, d'humour, de sagesse aussi. J'avais déjà croisé la route de Yann il y a quelques années chez un ami commun, adorable, mais beaucoup plus bavard que lui. Calme, observateur, un peu intimidant au premier abord, il s'anime et s'enflamme dès qu'on aborde sa passion des livres et de la lecture. Et ça tombe bien, je suis là pour ça. Yann Kefelek, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est chez Kalman Levy, votre éditeur. C'est un endroit sympa. Ça fait longtemps que vous êtes chez Kalman ?
Oui, ça commence par une question d'enquêteur. Je ne sais pas, moi, c'est une maison que je connais depuis toujours. C'est une maison historiquement superbe. Donc, j'ai l'impression d'être attaché à cette maison depuis toujours. Et j'espère bien, d'ailleurs, que cette aventure va durer très longtemps.
Alors, Yann, ce podcast, il s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et pour moi, c'est un rituel avec chacun de mes invités. Je leur pose la question. Moi, je l'affirme, mais je vous pose la question. Et vous pouvez ne pas être d'accord. Alors, est-ce que pour vous, Yann Kefelek, les gens qui lisent sont plus heureux que les autres ?
Alors, je ne suis pas dans la peau des autres, ni même dans la peau de ceux qui lisent. Donc, je suis incapable d'évaluer la quantité de bonheur éprouvé par mes semblables. En revanche, je sais que la lecture fait partie des cellules de mon organisme et de toute mon âme depuis que je suis arrivé au monde. Et bien entendu, je suis incapable de séparer la lecture du sens du bonheur, si tant est que le bonheur ait un sens. Donc sans même savoir si je suis heureux ou malheureux, j'ai besoin de lire pour être en vie.
Et ça, c'est depuis toujours ?
C'est depuis toujours. Je ne vous dis pas que je lisais dans les lignes des mains de ma mère lorsqu'elle me donnait mon premier biberon. D'ailleurs, ses mains étaient occupées à ce moment-là. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu de la voix dans l'oreille, des mots comme ça autour de moi, je me suis intéressé à la parole, à ce que la parole tentait comme ça de nous communiquer. Lorsque la parole est devenue une parole écrite, une parole d'écrivain, je me suis porté vers elle très naturellement.
Vous aviez un père écrivain ? Est-ce que ça incite à la lecture ou est-ce que ça donne au livre un caractère intimidant d'avoir un papa qui lui-même
J'en sais rien, je ne sais pas si c'est intimidant ou pas intimidant, si ça aide ou si ça nuit. Le fait est que j'étais cerné par les bouquins, que chez nous on écrivait même lorsqu'on parlait, quoi, que c'était assez inséparable. L'oralité de la voix et puis l'oralité des livres, la parole chez nous, c'était essentiel, c'était la vie, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, intimidant, j'en sais rien. Ma mère aussi, dans un sens, était écrivain, puisqu'elle relisait les livres de mon père. Enfin, on ne se posait pas de questions sur un plan freudien quant à savoir si le fait d'avoir un père écrivain ou pas, ça nous complexait ou au contraire nous désinhibait.
Est-ce que beaucoup d'écrivains m'expliquent qu'ils ont eu un passeur à un moment de leur vie ? Alors ça peut être un parent, un professeur, un ami, mais quelqu'un qui leur a donné quand même le goût de la lecture ou qui les a guidés dans leur première lecture. Est-ce que vous, il y a quelqu'un comme ça qui a un petit peu formé le jeune lecteur ?
Alors je suis sûr que cette notion de passeur, de passage est importante en littérature, en lecture particulièrement, voire en écriture, bien sûr, évidemment. Moi-même, j'essaye de jouer ce rôle de passeur. Lorsque je rencontre quelqu'un comme ça qui me dit ne pas être attiré par la lecture, j'ai tendance à ne pas le prendre tellement au sérieux. Je suis sûr que n'importe lequel d'entre nous, si tant est qu'il prenne au sérieux l'existence, est à la merci, évidemment, du livre qui changera sa vision des choses. Pour ma part, je crois que le simple fait de venir au monde dans la famille où je suis né a constitué le passage idéal pour accéder à la fois au vivre et au livre. C'est-à-dire que, encore une fois, moi j'ai baigné dans les livres, ma mère me lisait des histoires, mon père me racontait des histoires, ma mère me racontait des histoires, mon frère aîné me racontait des histoires, je racontais des histoires à mon jeune frère, et d'ailleurs pas qu'à mon jeune frère, à toute personne qui voulait bien m'écouter. Et c'est vrai que cette idée comme ça que les histoires venant s'ajouter à l'histoire de notre propre vie, eh bien c'est important. Je n'ai pas eu besoin de passage, ça se passait comme ça chez nous.
Est-ce qu'il y a un livre enfant ou adolescent qui change votre vie? Est-ce qu'on peut dire ça?
Non, tous les livres ont changé ma vie et aucun d'ailleurs. Non, effectivement, je lisais Le Petit Prince, je lisais Le Pays des 36 000 volontés, je lisais Alice au Pays des Merveilles, certains morceaux, parce que c'est pas vraiment un livre pour enfants. Je lisais des BD avec enthousiasme, je lisais Petzi l'Ourson, une bande dessinée danoise avec un bonheur fou. Enfin, j'étais... Tout ce qui était lisible et qui éventuellement comportait une image qui allait vers la lecture m'attirait, me captivait. Alors ça ne veut pas dire que je n'avais pas des préférences et dans ces ouvrages-là, mais j'ai mis du temps avant de dire ça tel bouquin. Et voilà, c'est le livre qui est fondateur peut-être de ma passion des livres.
Et c'était un plaisir supérieur à celui que peut procurer la musique, les films ou d'autres formes d'expression.
C'est extrêmement dangereux quand on se met à situer les arts comme ça de manière hiérarchique, à dire la littérature c'est plus grand que la musique, le cinéma c'est un peu moins bien que la littérature. Tout ça en fait procède de ce même besoin de comprendre les choses de la vie à travers une expression artistique à notre image. Donc c'est vrai que pour moi la littérature est peut-être la meilleure des images, mais elle est tellement mélangée aussi avec la musique, avec le cinéma, avec le théâtre, avec la peinture. Tout ça s'amalgame tellement bien finalement dans la sensation mentale de l'individu que j'évite de créer des frontières entre ces différentes sensibilités.
Votre nouveau roman, il s'intitule « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain ». Est-ce que c'est un livre qui rend heureux, à votre avis?
Encore faut-il s'entendre sur le bonheur en littérature. Ça veut dire quoi, un livre qui rend heureux? Il y a des livres d'épouvante qui rendent heureux. Stephen King, pour moi, est un immense écrivain. Ce sont parfois des ouvrages absolument terrifiants. Et pourtant, ça m'apporte un bonheur de lecture immense. Un livre qui prétendrait comme ça exprimer le bonheur des choses et rendre heureux son lecteur serait dans l'erreur la plus totale. On attend d'un livre précisément qu'il ne soit pas heureux, que ça coince, qu'il nous dise du mal d'autrui, que quelqu'un tue, que quelqu'un soit un lâche. Enfin, c'est tout ce qu'on aime en littérature. Ce sont finalement les mauvais aspects de l'individu, éventuellement compensés, pondérés par de meilleurs aspects. Mais c'est une bataille du bien et du mal, avec tout de même une forte expression du mal. C'est ça qui nous charme en littérature. Alors, puisque vous me parlez de Naissance d'un Goncourt, mon dernier livre, je ne sais pas du tout si c'est un livre qui rend heureux ou malheureux. Je n'ai pas cherché à rendre heureux ou malheureux mon lecteur. En revanche, ce que j'ai à cœur de faire, c'est de communiquer à tout ce que j'exprime une force d'écriture, je dis ça avec, vous allez voir, avec beaucoup d'humilité, irrésistible. Il faut que l'écriture d'un écrivain soit irrésistible, sinon le lecteur a d'excellentes raisons d'aller sur la tablette, d'aller vers d'autres livres, de somnoler, de faire une sieste, d'aller voir un film porno. Enfin, tout est possible. Hein. C'est la force d'attraction d'un livre, c'est d'abord l'écriture et la voix de son écrivain.
Alors, l'écrivain que vous êtes devenu, il est un peu au cœur de ce récit, puisque il est question de votre rencontre avec Françoise Verny, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. On peut dire ça, hein.
Ah non, non, je, non, non, très certainement, ni vous ni moi ne serions là en ce moment. On n'en sait rien, mais il y a de fortes chances, en tout cas, pour que nous ne soyons pas là. Françoise Verny, il faut rappeler qui est Françoise Verny. C'est un extraordinaire éditeur des années 80, extraordinaire éditeur de romans, quelqu'un de visionnaire, comme ça, qui se rendait tout à fait compte dans les échanges qu'elle pouvait avoir avec quelqu'un qui, d'ailleurs, ne se savait pas forcément écrivain au départ, mais elle voyait bien s'il y avait si de l'écriture se cachait dans cette personne et s'il y avait moyen de lui soutirer un livre à sa ressemblance et qui pourrait l'intéresser, elle et les autres. Donc, ça a été un formidable éditeur. Je l'ai rencontré dans des conditions totalement non littéraires, à Belle-Île-en-Mer, un soir où je me croyais destiné à faire le tour du monde en voilier. D'ailleurs, j'étais parti. J'étais même arrivé au nord de l'Espagne. Je suis tombé en panne. Le mauvais temps m'a ramené à Belle-Île-en-Mer. Au moment où j'attache mon bateau, après en avoir éborgné quelques-uns au cours de la manœuvre, on me tape sur l'épaule. Et là, j'entends ces mots que vous avez cités tout à l'heure. « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain. » C'est Françoise Verny. Je ne sais pas ce qu'elle fait sur ce quai. Je ne l'ai jamais su, d'ailleurs. Elle s'intéresse à moi, elle m'emmène passer une nuit blanche à son hôtel de Castel Clara. Nous discutons toute la nuit de tout et de rien, mais alors vraiment de tout et de rien. Et au petit matin, lorsque je la quitte et que je repars dans la tempête et sous la pluie battante, eh bien je me jure de lui apporter un roman dès qu'il sera terminé.
Elle a fait de vous un écrivain.
Elle a fait de moi l'écrivain que j'étais en devenir, en puissance, mais elle a deviné, elle a été, effectivement, elle a constitué ce rôle elle a joué ce rôle de passeur, de passeuse que vous évoquiez tout à l'heure pour l'écriture. C'est-à-dire, j'ai vraiment pris confiance en moi et dans cette destinée d'écrivain après l'avoir rencontré. Je me suis éloigné, non pas de la mer d'ailleurs, parce que j'ai toujours besoin que la mer ne soit pas très loin dans ma vie, mais je me suis éloigné de mon projet de tour du monde, qui est toujours en souffrance d'ailleurs, et je me jure chaque matin que je vais partir sur les mers faire ce tour du monde que je n'ai plus fait après avoir rencontré Françoise Verny.
Qu'est-ce qu'elle a déclenché en vous? Qu'est-ce qu'elle a débloqué en vous?
Je n'en ai aucune idée. Simplement, elle était magique. Elle est toujours magique, même si elle est morte. Je ne la sens pas morte du tout. Et lorsque j'arrive au bout d'une page d'écriture, chaque soir, je pense à ma mère, qui elle aussi m'avait donné confiance en moi, et qui n'était plus de ce monde, en tout cas de ce monde visible, lorsque j'ai rencontré Françoise. Et puis je pense à Françoise et je me demande si elle serait d'accord avec ce que j'ai écrit. Donc c'est sous ce double regard invisible, encore une fois, que je m'accomplis encore aujourd'hui comme auteur et comme romancier.
Avec elle, vous décrochez le Goncourt. C'est une histoire un peu incroyable. Ça arrive vite dans votre carrière d'écrivain. Ça vous conforte dans l'idée qu'elle avait raison à ce moment-là, ou vous avez encore besoin de confiance?
Non, 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 non. Quand je vous entends, ça, ce qui me conforte, en revanche, je me vois conforté dans l'idée que ma vie, effectivement, est assez romanesque. J'aime bien ça aussi. J'écris des romans, mais je trouve que tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'a amené à l'écriture est assez romanesque. J'ai le Goncourt, je me dis quoi? Je me dis que j'entre dans un rêve, d'ailleurs. C'est un rêve, le Goncourt. C'est pas une réalité. Je mets au défi un écrivain d'avoir ressenti, d'avoir une sensation de réalité lorsqu'il a eu le prix Goncourt. Donc j'entre dans un rêve. Ce rêve est une forme de convalescence par rapport à la vie. Il faut essayer d'en sortir le plus vite possible, mais ça peut prendre des années. Ça rend plutôt extrêmement humble. On se dit, d'accord, j'ai cette avalanche de succès autour de moi. Tout le monde a envie d'être sur la photo avec moi. Mes ennemis deviennent mes amis. Mes amis se multiplient. Je ne peux pas faire un pas dans la rue sans avoir de nouveaux amis. Les chauffeurs de taxi ne me font plus payer les courses. Les jeunes femmes se donnent à moi comme si c'était la moindre des choses. Enfin, c'est très, très, très... Ah, c'est très étonnant, le prix Goncourt. Ouais. C'est très, très, très étonnant. Surtout quand le livre marche, surtout quand c'est un Goncourt qui est replébiscité après les jurés Goncourt par le public lui-même. Donc c'est une sorte de lame de fond dans la vie d'un individu. Ça l'a été pour moi. C'est à la fois extraordinaire, c'est comme si vous étiez en train de surfer sur la plus haute vague du monde et que vous ne vous cassiez jamais la figure. Sauf qu'à un moment, on se casse la figure tout de même. Hein. Et c'est là où il faut savoir quand même numéroter ses abattis correctement et retrouver cet état de solitude extrême qui fait que vous êtes un vrai écrivain, un homme sincère devant la page blanche et en état de solitude.
Marin et écrivain, c'est quand même très similaire, non?
Marin et écrivain, oui, il y a des points communs. Il y a des points communs. Il y a des points communs paradoxaux. Il y a l'océan qui est une page bleue, où tout d'ailleurs attend d'être écrit. Et puis la page blanche, elle, est un océan miniature où les plus grandes tempêtes peuvent se produire. Les chavirages extrêmes ne demandent qu'à vous envoyer au fond de l'eau. Effectivement, il y a ce double point commun. Il y a énormément de solitude sur la mer, il y a autant de solitude sur la page blanche, et ce n'est que dans la solitude que l'on arrive à destination et que l'on arrive au meilleur de soi-même. D'ailleurs, derrière tout livre, il y a ce miracle de solitude que s'inflige l'écrivain pour devenir ce qu'il espère bien être.
C'est douloureux, l'écriture, toujours, aujourd'hui, pour vous ?
Il faut que ce soit douloureux. Une écriture qui n'est pas douloureuse, une écriture qui est autosuffisante, satisfaite, c'est une écriture loupée d'avance. Hein, ça, c'est... Alors c'est douloureux, oui, c'est extrêmement douloureux, c'est très angoissant, mais en même temps, rien n'est plus jouissif. Quoi. C'est surtout avec le temps passant, vous acquérez un savoir-faire, vous êtes conscient qu'il y a du savoir-faire, et ce savoir-faire, c'est avant tout un sens critique relativement au point. Vous savez quand vous êtes bon, vous savez quand vous êtes mauvais, vous savez que vous pouvez aller plus loin et vous savez que quand vous n'êtes pas allé suffisamment loin pour être à votre meilleur. Mine de rien, c'est énorme, cette lucidité devant son propre travail. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes le meilleur. Hein. Ça veut dire que vous finissez par pas trop mal vous connaître. Je dis pas trop mal parce que la part de surprise est particulièrement jouissive, c'est-à-dire une page dont vous n'attendez rien, dont vous pensez qu'elle est terminée, qui brusquement vous donne trois pages de plus ou vous livre un paragraphe génial auquel vous ne vous attendiez absolument pas. Je dis génial, encore une fois, selon les critères qui sont ceux de celui qui fait le bouquin et pas devant le lecteur. Tout ça fait qu'il y a une jouissance extraordinaire qui vient se mêler à la solitude et à la peur de l'écriture, parce que ça fait peur, incontestablement.
Ça a l'air presque plus périlleux que d'être sur un bateau.
Ah non, le bateau est bien plus périlleux parce que le bateau, il vous met en péril physiquement, c'est-à-dire il vous fait disparaître purement et simplement. Si vous vous noyez dans une page blanche, vous avez une petite chance de ressusciter le lendemain. Quand vous vous noyez dans l'océan, c'est fini.
Est-ce qu'en mer, on emmène des livres ? Est-ce qu'on a le temps de lire ? J'aurais tendance à penser que oui, mais peut-être qu'il y a trop de choses à faire sur un bateau.
Oh non, ça dépend. Si on a vraiment beaucoup de temps, si on traverse le Pacifique, on a même intérêt à avoir des bouquins.
Parce que c'est calme.
C'est très long.
C'est long.
Non, c'est pas forcément calme. Non, pas du tout. Ça peut être très calme, mais ça peut être très agité. Quand c'est très agité, généralement, on n'écrit pas. On écrit ni on ne lit, d'ailleurs. C'est effectivement... La lecture a besoin d'un grand calme. D'un grand calme, de silence. Ouais, pas trop de... Ouais, du silence, quand même, c'est mieux. Mais pas que du silence. Alors, si le temps de la croisière est court... Non, parce qu'on est tellement distrait, tellement surpris par ce qu'on voit, tellement ému par la beauté de la mer. Cette beauté comme ça qui change à chaque instant et qui sollicite l'émotion jour et nuit, qu'on a du mal à consacrer cette émotion à de la lecture. Mais dès si ça commence à se prolonger, si on commence à bien s'installer dans une atmosphère maritime, à faire partie de la mer elle-même, alors à ce moment-là, ouvrir un livre, c'est le plus beau des cadeaux que l'on peut faire à soi-même, à la mer et à la littérature, parce qu'on est vraiment dans un état idéal pour recevoir l'émotion littéraire.
Vous avez un souvenir comme ça de lecture en mer, vous êtes seul au milieu de l'océan avec un livre entre les mains et vous vous dites « waouh, c'est l'extase ».
Non, oui, j'ai lu par exemple, je pense que c'est sur la mer que j'ai le mieux lu Marcel Proust, parce que j'avais le temps, encore une fois, et parce que je m'installais dans la longue phrase de Proust, qui est une phrase mystérieusement très maritime. Proust aimait énormément la mer, il n'a pas été un grand navigateur du tout, mais en revanche, il était émerveillé par la mer, et je pense qu'on retrouve dans la longueur de la phrase proustienne et dans cette espèce d'horizon proustien infini, on retrouve quelque chose qui peut être de l'ordre océanique. Et j'ai eu un immense plaisir à le lire en mer, Proust.
Si demain vous partez, vous devez partir en bateau pour un voyage long comme ça, justement, sur le Pacifique, vous emmèneriez quel livre ?
J'emmènerai forcément des chefs-d'œuvre que je n'ai pas lus, des ouvrages russes que je n'ai pas, que je n'ai pas lus ou mal lus. J'emporterai des ouvrages d'une très grande facilité également, des livres que je, que, des romans qui m'enchantent toujours, que j'ai déjà lu plusieurs fois, comme Le choix de Sophie de William Styron. C'est un livre dont je n'arrive pas à comprendre comment il est fabriqué et comment ce livre tient la route et tient debout avec une structure aussi bizarre et déséquilibrée d'un bout à l'autre. Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre et on le commence, on ne peut plus le lâcher et à chaque seconde, on le trouve génial, quelles que soient les directions dans lesquelles il nous entraîne. C'est comme un bateau qui irait vers tous les points cardinaux en même temps et qui pourtant arrivera à destination. C'est extrêmement mystérieux. Donc j'emporterai ce bouquin, j'emporterai un maximum de romans parce que pour moi, rien ne vaut le roman, et encore une fois, peut-être des ouvrages un peu compliqués du XVIIe siècle, les ouvrages des alchimistes, comme ça, des bouquins que je n'ai pas l'occasion de lire ou de suffisamment approfondir à terre.
Quel genre de lecteur vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous lisez tous les jours ? Où ? Quand ? Comment ?
Un écrivain, c'est d'abord un immense lecteur. L'écrivain qui dit qu'il n'a pas le temps de lire, ça veut dire qu'il ne peut pas être un bon écrivain, c'est impossible. C'est un immense lecteur, c'est un immense admirateur, c'est quelqu'un qui a besoin de lire tout le temps. Alors, c'est pas possible de lire tout le temps. Et pourtant, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire, je vais vous quitter tout à l'heure, eh bien, j'ai des bouquins dans mon cartable. Voilà. Et si je ne lis pas, j'écris. Bon, alors vous allez me dire, voilà, la vie, qu'est-ce qu'elle devient ? Si, la vie, elle trouve toujours le moyen de passer entre les lignes, de passer entre les pages. Mais ça, c'est quand même un feuilletage comme ça, extrêmement subtil, et étroit et serré, que celui de la vie et du livre et de l'écriture.
Il y a quoi dans votre cartable alors comme livre en ce moment ?
Je pense que je dois avoir un livre d'un auteur anglais qui s'appelle Wilkinson, que je n'ai pas lu, qui est une sorte de, non pas d'émule, mais de sous-Dickens. Des intrigues qui sont très très au point, et ça j'aime énormément ça. Ces feuilletonistes du 18e et particulièrement du 19e siècle qui maintenaient en suspens l'attention du lecteur avec du mystère à la fin de chaque chapitre. Alors ça n'a l'air de rien, aujourd'hui on a tendance à mépriser un peu cet art du feuilletoniste en littérature, mais ça suppose un talent immense, c'est un talent extrêmement particulier et un travail extrêmement minutieux. Donc j'essaye de prendre même de bonnes idées pour ma technique d'écriture en lisant ces auteurs-là, dont je constate qu'ils n'ont absolument pas vieilli, qu'ils savent décrire des châteaux forts, des maisons hantées comme personne ne sait le faire, et que c'est extrêmement fortiche d'avoir réussi à réaliser cela à une époque où le cinéma n'existait pas. Donc ça jouait le rôle du cinéma à cette époque-là, le roman.
Est-ce que vous guettez beaucoup les nouveautés ? Est-ce que vous vous jetez sur un roman dont tout le monde parle ? Ou vous avez besoin d'un petit peu de temps pour
Moi, je me jette à contre-temps sur les romans dont tout le monde m'a parlé. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas tout le monde, justement. Ce sont des gens dans la vie duquel j'ai relativement confiance, ou au contraire, des gens qui sont d'une grande simplicité dans leur lecture et sont d'une véritable ingénuité par rapport à leurs émotions. Alors, le fait qu'ils aimaient un livre, ça me trouble. Je me dis, mais s'ils sont émus par ce bouquin, moi aussi, j'ai le droit de l'être. Et si je ne le suis pas, c'est que je suis en perte d'ingénuité moi-même. Et ça, je ne veux pas l'être. En perte d'ingénuité, ça veut dire être en perte de cet esprit enfantin qui fait qu'on est prêt à gober la parole du romancier dès lors qu'il a le charme magique d'un prestidigitateur de mots. Donc, dans cette mesure-là, encore une fois, je me jette à contre-temps pour les nouveautés. Il y a un livre dont tout le monde parle en ce moment, qui vient d'être débarqué, j'ignore pourquoi, de la liste du Goncourt, qui paraît-il est génial. C'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné.
Ah, mais je l'ai lu.
Vous l'avez lu ? Oui. Ah, alors ?
Ah, bah, c'est super.
Alors, c'est super.
C'est un peu déroutant au départ, parce que c'est écrit du point de vue d'une petite fille, et on a un petit peu de mal à voir l'auteur dans la peau de la petite fille, mais c'est très imagé, très, très brut. Puis à un moment donné, il y a un événement grave, un événement un peu presque fantastique qui se déroule dans le livre, et ça bascule. Et là, on y croit et on rentre dans le personnage, et ça devient à la fois très, très, très violent, très fantasmagorique, très intime. Oh, c'est un beau livre.
Oui, mais ça me plaît, ce qui vous déroute, moi, me charme. Hein, c'est-à-dire cette petite fille qui parle et qui vous déroute parce qu'on se dit, mais où est l'auteur là-dedans? Bah, précisément, l'auteur est devenu une petite fille. C'est en cela que l'auteur est un magicien et un prestidigitateur. Rien que ça, ça redouble mon envie d'aller. Il y a aussi le livre d'Eric Fotorino qui est magnifique, qui lui est toujours sur l'adolescence, sur les relations avec la famille. Ça, moi aussi, c'est un monde que je trouve insondable, celui de la famille, et tellement mystérieux, tellement secret, tellement menteur, tellement tricheur, tellement beau en même temps, tellement nécessaire. Tout ça, tous les livres qui traitent de la famille sont des. Et je constate que la famille reste un milieu littéraire dont les modes n'arrivent pas à se passer. Donc je recommande ce livre d'Eric Fotorino.
Alors, vous m'avez donné envie de lire certains livres. Je vous ai donné envie, confirmé dans l'envie d'en lire un. Est-ce que c'est quand même difficile de convaincre? Vous parliez tout à l'heure des gens qui disent « moi, je ne lis pas » ou « je n'ai pas le temps de lire ». Est-ce que c'est difficile, en 2018, dans le monde dans lequel on vit, d'amener les gens à la lecture?
Pour moi, quelqu'un qui ne lit pas dans un monde occidental, hein, je ne parle pas des Indiens d'Amazonie, c'est tout à fait autre chose. La lecture du monde se passe différemment. Du monde, de la connaissance, hein, c'est un apprentissage très différent. En revanche, dans nos milieux occidentaux, quelqu'un qui ne lit pas, pour moi, est un grand malade, qui ne le sait pas. Donc on ne peut pas guérir quelqu'un comme ça, d'un instant à l'autre, de cette maladie. Mais s'il a la volonté, comme ça, d'admettre le bon sens, comme ça, d'un lecteur qui fait partie de la vie, hein, qui n'est pas totalement déconnecté des réalités de son temps, s'il lui fait confiance et qu'il veut bien aller vers un livre et passer un tout petit peu de temps dans un livre, moi je suis certain que j'ai les clés, que j'ai les livres comme ça qui feront de lui, ou qui feront d'elle d'ailleurs, une lectrice qui ne pourra plus ensuite se passer d'aller vers d'autres livres plus longs, plus difficile pour certains d'entre eux. Encore difficile, ça ne veut rien dire, absolument rien.
Les gens disent justement qu'ils n'ont pas le temps. Ils se trompent?
Ils se trompent lourdement, les pauvres. Ça montre seulement qu'ils vivent leur existence comme une sorte de compte à rebours absolument sinistre. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus que tant d'années à vivre. La journée n'a plus que tant d'heures comme ça. Le soleil n'a plus que tant d'heures à briller aujourd'hui. L'heure n'a plus que 55 minutes à m'accorder. C'est absolument monstrueux. Moi, je vis baigné d'éternité et j'associe l'éternité des livres à ma propre éternité. Ça ne veut pas dire que je suis éternel, évidemment, mais c'est la relation que j'ai avec le temps. Et quand on a cette relation avec le temps, on s'aperçoit qu'un livre, loin de vous prendre du temps, ne cesse de vous en accorder. Le livre, il apporte son propre temps au temps de la lecture. Si vous mettez 10 heures à lire un livre, peut-être que le livre vous aura apporté, lui, au cours de ces 10 heures, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, voire un regard sur l'éternité qui aura encore amplifié comme ça le parcours de l'aiguille autour de la montre. C'est absolument extraordinaire ce que le livre peut ajouter de la durée à la durée.
D'ailleurs, si parmi les gens qui nous écoutent, certains ne lisent jamais de livres, ce qui est quand même très vrai, c'est que quand on est accro à un livre, hein, quand on ne peut plus décrocher d'un livre, on trouve toujours le temps de le terminer et tout ce qui arrive autour passe après.
Mais vous avez dit le grand mot. Quand un livre nous prend, nous happe, il nous détache de l'existence, il nous attire dans sa propre existence, comme s'il y avait plus d'existence dans le livre qu'il n'y en a à l'intérieur de l'existence réputée vraie. Donc à partir du moment où on a compris ça, on a tout compris.
C'est un truc de fou, non?
Non, c'est pas fou du tout. Au contraire, c'est grisant.
C'est magique.
Mais c'est magique. Le livre, c'est en plus, on ne peut pas imaginer quelque chose de plus simple qu'un livre. C'est vraiment ce tas de feuilles de papier, voilà, où sont mis dans un certain ordre les mots les plus ordinaires que nous parlons, vous et moi, pour y bâtir tous ces royaumes dans toutes les dimensions possibles et imaginables. C'est voilà, c'est extraordinaire.
Il y a peut-être un ennemi de la lecture en ce moment, c'est l'Internet et les réseaux sociaux qui nous bouffent un peu notre énergie, notre concentration. On discute avec les gens de petites polémiques qui durent à peine 24 heures. Est-ce que vous êtes parfois prisonnier de ça ou c'est complètement pas votre truc?
Non, ça, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais... J'essaye de prendre toutes ces choses modernes, toutes ces technologies, tous ces moyens de communication, toutes ces, communication complètement bidon. J'essaye de leur prendre ce qu'elles ont d'éventuellement romanesque pour l'écrivain que je suis et pour en tirer parti ensuite de manière vampirique dans mes propres ouvrages. Mais il est évident que je ne m'implique pas dans ces choses-là. Je ne crois absolument pas que ce soit dangereux pour la littérature. De toute manière, l'être humain, il est bien plus fort et bien plus grave qu'on ne l'imagine. Si pendant une période de votre vie, vous êtes détourné d'un vrai questionnement par rapport à vous-même, par toutes ces distractions que constituent ces technologies que vous avez évoquées, il vient toujours le moment où un événement grave, justement comme ils sont produits dans les livres, un événement grave se produit, ou pas si grave que ça, d'ailleurs tout simplement une espèce de question sur le « qu'est-ce que je fous là hein, au milieu des vivants sur la Terre », fait que vous irez vers les livres où il n'y a pas de réponse aux questions posées, mais il y a une certaine manière de dire ces questions, de leur donner de l'humour, de leur donner de l'émotion, voilà, qui place forcément le livre, non pas au-dessus, mais autour de tout ce qui se passe. Hein, le livre, il fait le tour de tout. Il fait le tour de la vie, tout le temps, quelle que soit la vie, quel que soit l'Internet, quel que soit le numérique, les intelligences artificielles, etc. Tout ça a sa place à l'intérieur de la sensibilité littéraire.
Vous avez fait un peu de télévision à une époque, hein, avec Stéphane Bern, je crois.
Non, bah, attendez, Stéphane Bern, c'est un immense homme de télévision que j'admire énormément d'ailleurs. Il a vu la gentillesse de me choisir comme chroniqueur dans une émission qui m'avait considérablement amusé. Pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds? Mais j'appelle pas ça faire de la télévision. Moi, j'étais là pour m'amuser, pour répondre aux questions qu'on me posait de manière drôlatique, et j'ai tenté de bien jouer mon rôle. Non, je n'ai jamais fait de télévision.
Qu'est-ce que vous pensez des écrivains comme Christine Angot ou Yann Moix, qu'on voit maintenant presque plus à la télévision dont on parle plus comme des chroniqueurs télé que comme des écrivains? C'est dommage, non?
Ça les regarde. Voilà ce que je me dis, franchement, ça les regarde. Mais si vous me demandez de m'intéresser un tout petit peu à cette question-là, je vous répondrai qu'un écrivain, il a cette naïveté d'avoir besoin de passer à la télé pour être reconnu par son boulanger le lendemain matin. Ça le met en joie. Quelqu'un qui lui dit le lendemain « Ah, je vous ai vu hier à la télé », il se sent rempli comme ça de l'immensité de son image au-delà de son écriture, et il est content, et ça lui va bien comme ça. Moi, je m'en fous éperdument, c'est-à-dire je suis heureux de passer à la télévision parce que je peux délivrer une parole qui va dans le sens du livre, mais ça n'est pas du tout, il n'y a aucun narcissisme, on ne peut jamais dire qu'il n'y a pas de narcissisme, attention, il ne faut jamais se faire... Faut jamais jouer les oraux lave plus blanc. Mais en tout cas, c'est vraiment totalement secondaire dans le besoin que j'ai lorsque je sors un livre, de passer éventuellement à la télévision ou de parler à la radio. Mais visiblement, pour Angot et pour Moix, ça, alors là, franchement, pour eux, ils sont devenus des gens de télévision. En se disant d'ailleurs que ça les servira quand ils reviendront un jour au livre. Parce qu'ils sont absolument sûrs qu'un jour ils reviendront au bouquin. Et qu'ils ont cette double appartenance comme ça à la littérature et à l'écran cathodique. Sauf que, il faut faire attention, c'est un monde diabolique, hein, le monde de la télévision. Et c'est très très difficile d'être juge et parti. Le lecteur, lui, ne s'y trompe pas. Quand quelqu'un a trop fait de télévision, il a du mal à croire en lui lorsqu'il revient à l'écriture. Et la célébrité qu'on s'est procurée à la télévision ne profite pas forcément à votre écriture. Il faut être célèbre quand on est écrivain par son écriture.
Parce que ces écrivains-là, ou d'autres, viennent dans les émissions donner leur avis sur des sujets d'actualité. Ils ne parlent plus de littérature. À un moment donné, est-ce que c'est vraiment le rôle du romancier de donner son avis au hasard sur la police ou la crise des migrants ?
Grotesque, c'est absolument grotesque. Ça, c'est un peu une maladie de notre époque, c'est-à-dire des gens comme ça qui ont la naïveté de se prendre pour des juges dont la parole est forcément intéressante sur tous les sujets qu'on fait passer à leur portée. Moi, je déteste les juges, de toute manière. J'ai horreur qu'un de mes semblables se permette d'en juger un autre. Hein. C'est un geste divin. Ou lorsque c'est un geste véritablement d'un juge en justice, je souhaite qu'il soit d'une infinie humilité au moment où il rend la justice. Mais alors sinon, les petits juges de la télévision, ils sont tous à balancer à la benne.
Ce qui ne veut pas dire qu'un romancier ne donne pas son... ne livre pas un regard sur le monde à travers la fiction.
Ah mais l'écrivain, il est aussi naïf que les autres. Hein. Il peut très bien même, d'ailleurs, se prendre pour un petit juge à un moment dans ses livres. Mais au moins, l'audience est moindre. Et puis, de toute façon, il sera aussi ridicule dans ses bouquins quand il se fera juge de ses contemporains qu'il pourrait l'être à la télévision, évidemment.
Tiens, reparlons un petit peu des livres pour la fin de cet entretien. Quel est le dernier livre qui vous a complètement épaté ?
Bon, j'ai aucun mal à répondre à cette question, parce que c'est vraiment un livre qui m'a épaté, pour lequel je me dis qu'il existe un avant et un après. C'est-à-dire, je ne suis plus le même depuis que j'ai lu ce livre, et je ne comprends pas d'avoir attendu des dizaines et des dizaines d'années pour l'avoir entre mes mains. C'est Eben du polonais Richard Kapuściński. Alors, c'est un livre qui se déroule en Afrique, et ceux qui nous entendent pourraient se dire « mais j'en ai rien à foutre de l'Afrique, ni des problèmes africains ». Sauf qu'en lisant ce livre, on se aperçoit qu'à travers cette évocation d'une certaine Afrique, c'est tout simplement sur l'homme qu'il s'interroge, sur l'homme, dans sa relation avec le temps, dans sa relation avec la parole, dans sa relation avec l'amour, dans sa relation avec l'histoire, dans sa relation avec l'art. Enfin, c'est absolument incroyable. Et en plus, tout en rappelant comme ça certains événements africains, qui d'ailleurs nous concernent d'extrêmement près, notamment l'esclavage, hein, c'est un sujet quand même assez considérable. En lisant le livre, on s'aperçoit qu'on est en train de lire ce qu'on est soi-même et d'entendre toutes les questions qu'on s'est toujours posées et qui sont restées des questions infiniment obscures. On commence non pas à y voir clair, mais en tout cas à se sentir extrêmement à l'aise dans cette écriture qui aurait pu être la nôtre si on avait été aussi génial que l'écrivain lui-même. Parce qu'en plus, c'est un écrivain génial. Donc c'est une écriture de la simplicité extrême, même s'il n'y a pas une espèce de parti pris de simplicité. C'est simple parce que c'est simple, et probablement parce que les choses sont infiniment plus simples qu'on ne veut bien le croire.
Alors, on a parlé de La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Est-ce qu'il y a un livre en haut de votre pile, le prochain que vous allez dévorer ?
J'ai tendance à manger plusieurs sandwichs en même temps, hein, donc c'est un problème. Mais étrangement, ma mâchoire de lecteur s'y retrouve relativement bien. Donc, je lis Le Prince des Marais, M-A-R-E-E-S, de Pat Conroy, en ce moment, un Américain. Je lis la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, que je n'ai jamais lue. Je relis Les Frères Karamazov, que j'avais déjà lu trop jeune. Et je ne suis pas d'accord avec Nabokov, qui dit le plus grand mal de Dostoïevski, y compris des Frères Karamazov. Bon, il s'en fout, Nabokov, que je ne sois pas d'accord avec lui. Mais je trouve qu'il exagère un petit peu quand même en taillant à costard à Dostoïevski que les Frères Karamazov, c'est un immense roman. Je lis un livre de Gilles Martin Chauffier, L'ère des suspects, le dernier roman de Gilles Martin Chauffier sur ce qui se passe dans les banlieues, sur la police, et puis comment la police se débrouille comme ça dans les banlieues pour faire régner un ordre là où le mot ordre n'a aucun sens. Hein. Et c'est un livre assez magnifique et extrêmement troublant sur la voie publique, sur ceux qui vont sur la voie publique, là où personne ne veut aller et dont personne ne veut entendre parler. C'est un très beau livre. Enfin, je lis beaucoup de poésie aussi. Je relis les livres d'or de la poésie française de Pierre Segers. Ça n'est pas ringard de les relire, parce que ce sont des compilations extraordinairement bien foutues, avec des auteurs qu'on a totalement perdu de vue et qui ne reviendront peut-être jamais à la surface, parce que la postérité n'a pas le temps, comme ça, d'engranger tous les génies d'autrefois. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Enfin, voilà, je lis tout le temps.
Et en même temps, vous écrivez ?
Et en même temps, j'écris, absolument, oui. J'écris énormément, oui.
Quel est le... Ah, c'est peut-être une question mystère. Quel est le livre que vous n'avez pas encore écrit, qui vous trotte dans la tête depuis longtemps et qui n'est pas encore sorti ?
Le meilleur.
Ouais. Le meilleur ?
Ah, le meilleur. Le meilleur. Tous les écrivains, j'imagine, se disent ça, que le meilleur de leur roman reste à écrire. Pour moi, je suis sûr que c'est absolument vrai. Que j'ai une certaine expérience des choses à l'âge que j'ai. Je dis âge, hein, sans... Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, j'ai encore une certaine verdeur face à la vie, face au regard que je pose sur le monde. J'ai toujours envie de voir les choses avec humour, tendresse et violence. Donc c'est ça qui me caractérise, je crois, lorsque j'écris humour, tendresse et violence. Donc je vais aller au bout de cette triple sensibilité dans mon prochain roman. Je suis de plus en plus émerveillé par les personnages que la vie nous fait croiser, comme ça tous les jours, par la disparité de mes semblables, par l'originalité, comme ça, de tous ces êtres qui sont comme nous et qui sont totalement différents de nous. Enfin, j'ai encore envie d'agencer ça du mieux que je peux pour faire pleurer Margot et pour la faire marrer aussi.
Bon, bah merci beaucoup Yann Kifelek pour ce petit moment. Je pense que vous m'avez donné envie de lire plein de livres. Et je pense que ceux qui nous ont écoutés auront envie aussi de découvrir plein de romans.
Eh bien, tant
après,
mieux.
Après
tant
cet entretien. Tant Merci mieux. Beaucoup, Yann.
Non, je vous en prie, avec plaisir.
Merci. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les livres évoqués par Yann Kefelek, durant cet entretien, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture !